Bleu Provence Midi.
Les Tchatcheurs.
Thibaut Gaudry.
Les Tchatcheurs, ce midi, je vous souhaite déjà un bon appétit, une belle journée. En notre compagnie sur France Bleu Provence, je vous les présente autour de la table, justement, la bouffe, on va en parler, ou plutôt la malbouffe, ou comment mieux manger. On va essayer d'évoquer tous ces sujets avec Stéphane Guilbeault, il est consultant en changement de comportement alimentaire, il est exois aussi, assez accessoirement, et il a publié « Stop aux mensonges dans l'assiette », c'est publié chez Erol, et il sera en dédicace ce samedi à 11h à la librairie de Provence, à Aix-en-Provence, sur le cours Mirabeau. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Bleu Provence.
Merci, c'est partagé.
Jean-Michel Turc avec nous, majoral du Félibrige, passionné de Provence, de Marseille, prof certifié en langue régionale, et plus précisément en provençal.
Oui.
Co-auteur aussi de La Provence pour les nuls, il y a quelques années. Et puis, il travaille autour d'un projet, une route culturelle entre Marseille et Naples. Et Naples, peut-être qu'il nous en parlera aussi. Et il vient, surtout, quand même, ce midi, pour nous parler de la traduction qu'il a réalisée de La gloire de mon père. C'est publié chez Bambou. C'est une adaptation de l'œuvre de Pagnol en BD. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Thibault, bonjour les amis.
Tout va bien ?
Tout va très bon. Très bien.
Et c'est Serge Scotto que vous avez traduit, enfin Pagnol, certes.
Voilà,
mais
c'est
aussi
ça.
Serge Scotto.
Je suis en bout de chaîne, je suis en bout de chaîne.
Pagnol, Serge Scotto. Bonjour.
Oui, ben nous on est très heureux d'en être arrivé là. J'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau que La gloire de mon père, La glorie de mon père, je le dis très mal.
Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal.
C'est pas mal, on dit c'est comment normalement ?
La glorie de mon père.
Ouais, voilà. Ouais, c'est un petit peu mieux quand même. Je suis désolé, hein,
oui, je ne veux pas vous faire offense, majoral,
Serge, mais
bon, je suis que prof.
Je suis minoral de Provençal.
Moi. C'est déjà bien.
Et puis, Serge, avec vous, on va parler d'une autre adaptation hein, de Pagnol, c'est Le temps des amours. C'est sorti hier également,
voilà.
Tout comme la version provençale qu'on vient d'évoquer. Et puis, vous serez au Carré des écrivains ce samedi, et puis à la fête du livre à Toulon ce dimanche. Et vous allez publier aussi dans quelques jours un nouveau roman qui s'appelle Des Chintocs en Provence, qu'on évoquera également. Et puis, on va jouer aussi ensemble. Vous allez nous raconter dans cette émission des histoires peut-être vraies ou pas, à gagner ce midi des invitations à un dîner-concert chez Chico et les Gypsies ce samedi à Arles à partir de 19h.
Les Tchatcheurs, Thibaut Gaudry.
Alors, d'abord, on va parler un peu de nos assiettes, de ce qui s'y trouve. Est-ce que, messieurs, vous faites un peu attention à ce que vous mangez ou pas du tout, Serge, Jean-Michel ?
De plus en plus, à vrai dire.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mm-hmm. C'est peut-être parce que je vieillis. quand j'étais jeune, j'avais l'impression d'être immortel et de pouvoir manger n'importe quoi.
Quoi ouais.
Je le faisais, maintenant ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, il ne faut pas que je déconne parce que je digère moins bien.
Ouais.
Si je picole un peu trop, ça ne se passe plus aussi bien non plus qu'avant, etc.
Donc vous faites attention. Et vous, Jean-Michel ?
Alors moi, c'est le régime méditerranéen par excellence, très strict. Donc c'est huile d'olive, tout à base d'huile d'olive, d'ail et des produits de la vigne. Voilà. Donc je me regarde.
De la vigne.
J'essaie de contenir mon bédélé, comme c'est dit Saint-Point Sao, mais bon. Ça a dû faillir mon prompt.
Le régime crétois, c'est bien, Stéphane, ou pas ?
Oui, c'est très bien, parce qu'en fait, le régime crétois, c'est le plus connu ici dans la région, le méditerranéen, qui est différent. Il y a le régime abkhaz, il y a le régime okinawaïen. En fait, ce sont des régimes qui ont en commun le fait de d'utiliser les produits de la nature. Pas de produits transformés, très peu de produits laitiers, très peu de produits sucrés, très peu de produits céréaliers, en fait.
Alors, on va évoquer, avant de se lancer dans ces débats, que nous allons certainement avoir dans cette émission, on va revenir un peu sur votre parcours, Stéphane. Alors, vous avez été d'abord dans une autre vie, directeur artistique en agence de com, ensuite responsable de communication dans une agence spécialisée en marketing visuel. Et puis un beau jour, vous êtes devenu consultant en changement de comportement alimentaire suite à une formation que vous avez suivie. Mais vous étiez intéressé depuis longtemps par l'alimentation. C'est venu comment ?
En fait, c'est venu par ma grand-mère déjà, puisque ma grand-mère avait un lien avec la terre qui était très intéressant. Et justement, moi, j'ai été fasciné par les années 80. Je pensais que la publicité était utile parce qu'elle était belle. Et c'était l'époque Jean-Paul Gould, etc. En plus, comme j'ai été jeune directeur artistique, j'étais
très sensible. Cible un peu à ce qui,
tout à fait.
Ce qui se faisait. Ouais.
Ce qui se faisait, l'image, la technologie, et puis bon, je retouchais des mannequins en photo, enfin c'était les sous-vêtements, le parfum, la cosmétique, tout ça. Puis après, on va vers des produits plus alimentaires et vers ce qu'on appelle la grande distribution et les produits de l'agro. Et donc là, pour moi, j'ai trouvé que les années comptaient double parce que je ne me reconnaissais plus par rapport à ce que ma grand-mère m'avait apporté comme éducation. Donc ça a été un changement brutal pour moi, puisque ne me reconnaissant sympa. J'y suis allé dans, comme un bélier, j'ai foncé vers la porte de sortie. Quand j'en suis parti, il a fallu que je recompose en fait avec mon savoir. J'ai décidé de mettre toute l'expérience que j'avais en marketing visuel, cette fois-ci au service du consommateur.
D'une bonne cause, d'une cause qui vous importait. C'était quoi ce lien avec la terre de votre grand-mère ?
Ma grand-mère était un petit peu sorcière en fait. Je m'en rends compte avec du recul. Un exemple tout simple, quand on le resitue au début des années 80, elle ne voulait pas qu'on jette les pépins de pamplemousse. Elle les mettait sur les radiateurs, elle les faisait sécher, puis elle prenait un petit marteau en bois qu'elle avait, elle les cassait, elle me faisait des infusions avec. Mmh. Aujourd'hui, quand j'entends parler des gouttes à base de pamplemousse, je suis fasciné par le geste qu'elle faisait, puisque personne ne sait pourquoi elle faisait ça. Mmh. Et puis, c'était une femme qui achetait des produits bruts, et qui avait cette manie de recomposer les aliments. On faisait ce qu'on appelait de la cuisine par assemblage, et tous les jours, en fait, avec le même plat parfois, qu'avec du riz, qu'avec de la viande, qu'avec des haricots, elle nous faisait 10 plats différents. Mmh. Ça, c'était très intéressant. Le point faible de ma grand-mère, c'était qu'elle avait fait la guerre. Et en fait, la promotion était quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle était capable d'acheter un produit, je suis désolé, de merde, parce qu'en fait, il y avait des promotions. Mmh. Et c'est ça aussi qui m'a fait réaliser que si elle achetait des promotions, c'est parce qu'il y avait des gens qui faisaient du marketing promotionnel autour d'un produit.
Mmh. Alors, vous avez plusieurs chevaux de bataille qu'on va évoquer tout au long de l'émission. Alors, il y a la publicité qui nous matraque, que ce soit à la télé, à la radio aussi, dans une moindre mesure chez nous quand même, faut-il le préciser.
Les enfants,
même s'il y a eu une loi qui était passée, je crois, il y a quelques années, mais c'est une demi-loi en fait, parce qu'en fait, si on regarde la télé avec ses enfants, on s'en rend bien compte encore qu'ils sont matraqués par tous les produits. Mmh. Et puis c'est un peu hypocrite comme système, parce qu'il y a toujours, il y a des messages de prévention, sauf que le mal est fait, quoi, en fait.
Il y a la rue, il y a les magazines, et puis il y a les tablettes, et là on ne maîtrise plus rien. Mmh.
Et puis il y a les lobbies aussi, on va évoquer avec vous les lobbies qui sont toujours aussi puissant, même si on essaye de les contenir, on est loin du compte. Jean-Michel et Serge, vous êtes rencontrés, vous n'êtes pas rencontrés, parce que je vous avais déjà invité tous les deux.
Au bar, voilà. Exactement, en plus,
c'était au bar. C'est original, ça. C'est original.
Ah oui. Ben oui. Le bar de la banque, The Place to Be à Marseille, comme on dit en provençal.
C'est où ce bar ?
Il est juste à côté de la préfecture.
Mm-hmm. Oui, entre la préfecture et la Banque de France, c'est pour les gens sérieux en principe, et pourtant c'est là qu'on s'est rencontrés, mais nous, on ne va jamais ni à la préfecture, ni à la banque.
Des garçons sérieux. Que des jambons.
Oui, on boit notre thé vert. Voilà.
Parce que ça dure plus longtemps.
Bien entendu. Et c'était pour évoquer donc ce projet de traduction à l'époque ou pas du tout?
Je crois que c'est la première chose dont on a parlé assez rapidement, oui, parce que Jean-Michel avait très envie de le faire. Ça fait 2 ans. Il m'en parle.
C'est ça, deux ans même et demi par rapport à l'éditeur que j'avais contacté. Parce que je ne suis pas un prof de provençal majoral qui attend dans son fauteuil mais qui va de l'avant, comme tout le monde ici autour de ce plateau. Donc c'est ce que j'avais fait, mais il fallait trouver un financement. Mm-hmm. Et nous avons fini par le trouver 2 ans après.
Mm-hmm. Ça vous fait plaisir ?
Ah mais total. Ouais, parce que, comment dire, Pagnol, il est traduit dans toutes les langues. J'aime rappeler que c'est l'auteur français le plus connu dans le monde. Parce que nous, on a l'impression qu'il est à nous, c'est patrimonial, Pagnol, c'est quasiment quelqu'un de la famille. Mais en ce moment, Marius est joué par le Théâtre Renault au Japon, de son vivant, et tous ses films. Marius, par exemple, ce qu'on ne sait pas tellement, c'est que Marius, avec Rému, César, dès 1930, la Paramount a tourné 3 versions en même temps, dans les mêmes décors, avec des acteurs différents, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le doublage. La version allemande et la version suédoise, espagnole, c'est vraiment un auteur international, donc il ne lui manquait plus que d'être traduit.
La langue de chez lui, quoi,
chez
finalement.
Nous. Voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que Pagnol ne parlait que très peu le provençal, et quand vous lisez Pagnol, il ne répète pas les mots provençaux qu'il a entendus, parce qu'il les a oubliés. Il dit avance charogne, lui dit-il en provençal. C'est-à-dire qu'il précise que c'était en provençal, mais lui ne le parle pas. Je pense à ça, c'est dans la gloire de mon père. Avance charogne, lui dit-il en provençal. À un moment donné, dans la gloire de mon père, c'est le père François qui s'adresse à sa mule, et Pagnol écrit en provençal, il rappelait à sa mule que sa mère mangeait des excréments.
Et comment on dit finalement avance
zoo capon, parce qu'on va pas, on va le traduire dans, avec un autre vocabulaire.
Avant Charognard, oui.
Et on a beaucoup de termes. Mais une chose très importante à signaler, comme le dit notre ami Serge, c'est que quand on oppose souvent la Provence, pas opposée, pardon, quand on aligne les Provences, alors de Daudet, de Mistral et de Pagnol, la grande particularité de Pagnol, c'est sa Provence, mais elle n'est pas linguistique. Même si le provençal reste éminemment présent, masqué à travers des mots provençaux qui ont été francisés ou quelques expressions qui sont mises ici et là. Et justement, il manquait une pièce à ce puzzle, c'est ce que j'aime aussi à dire, c'est cette belle langue provençale, saluée aussi à travers le seul prix Nobel de littérature, Frédéric Mistral, que l'on est dans l'histoire des Nobel. Puisque le provençal qui est ici, c'est le provençal de chez nous, dans sa variante marseillaise, c'est très important de le rappeler aussi.
Allez, voilà. On est ensemble jusqu'à 13h sur France Bleu Provence avec Serge Scotto, avec Jean-Michel Turc et avec Stéphane Guilbeault qui vont vous raconter tout à l'heure des histoires. Je vous rappelle qu'on vous invite chez Chico ce midi sur France Bleu Provence. Très belle journée.
France Bleu Provence.
Juste après avec Jean-Jacques Goldman et Carole Fredericks.
France Bleu Provence, c'est bon pour le moral.
France Bleu Provence, je l'écoute depuis la création.
C'est ma radio préférée.
France Bleu Provence, c'est vous qui êtes formidable.
Les tchatchers avec autour de la table ce midi, Serge Scotto, qui adapte en BD, il n'est pas seul évidemment, hein, dans ce grand œuvre, qui adapte justement l'œuvre intégrale de Pagnol en BD, vient de sortir, c'était hier, hein, c'est tout frais, Le Temps des Amours, c'est le dixième...
Le onzième,
je crois que c'est Topaz qui est sorti en deux... Non, c'est pas Topaz qui est sorti en deux volumes, c'est Topaz.
Puis là, il y a Cigalon qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui était un feuilleton à Provence. Été. Mm-hmm. Oui, on en est à 11, en 3 ans, on tient le rythme.
Ah, vous savez bien bosser.
Je ne suis pas tout seul, justement. On est une sacrée équipe, notamment Eric Stoffel, qui est de tous les albums avec moi.
Qui co-scénarise. Et puis, il y a plusieurs dessinateurs qui changent d'un album à l'autre. Vous serez au Carré des Écrivains ce samedi, au Centre Bourse, tout l'après-midi à Marseille, et puis à la Fête du Livre à Toulon ce dimanche. Et puis, des Shintok en Provence, votre nouveau roman qui va bientôt paraître et que vous allez présenter en avant-première. Donc, ce samedi à Marseille. Jean-Michel Turc est avec nous, majoral du Félibris, j'aime bien quand même le dire.
Oui, c'est pas mal.
On n'est que 50. Ça fait pas très longtemps.
En 2017, l'hiver dernier. J'ai été élu en 2017 et on m'a remis la fameuse cigale d'or qui symbolise d'une façon la connaissance. On sait très bien qu'on est 50 et qu'on n'est pas les seuls 50 à avoir la connaissance. On se la partage, voilà, bien évidemment, avec beaucoup plus de monde.
Vous avez traduit donc La gloire de mon père en provençal et c'est sorti hier également.
Oui.
Stéphane Guilbeault est avec nous, consultant en changement de comportement alimentaire. Il vient de publier Stop au mensonge dans l'assiette, c'est publié chez Erol. Et Stéphane, vous pourrez le rencontrer ce samedi à 11h à la librairie de Provence à Aix, sur le cours Mirabeau. Et puis, dans quelques minutes, on va écouter la première histoire de cette émission pour vous permettre d'aller assister à un dîner-concert chez Chico, Patio de Camargue à Arles, ce samedi. Stéphane, on parlait d'éducation, là, pendant le disque d'éducation des enfants, parce que ça part de là, tout part de là, évidemment. Et c'est compliqué parce que les gros industriels, les grosses marques de fast-food ou autres, ou de boissons sucrées, sont extrêmement puissants. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a des lobbies aussi autour du lait, j'imagine qu'il y en a aussi autour du gluten, enfin, dans tout, de toute façon, tous les gros groupes.
C'est ça, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, on les retrouve à tous les niveaux. Et le problème, c'est que quand l'éducation d'un enfant est faite, il va grandir avec ce modèle-là. Et c'est justement dans la désobéissance alimentaire, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout pas les rendre révolutionnaires, parce qu'un révolutionnaire, il lutte contre quelque chose, un système, et c'est très compliqué, mais plutôt contre un rebelle. Et dans le rebelle, dans le sens où il faut arriver à comprendre, observer ce qui se passe et passer à autre chose. Et c'est ce retrait, en fait, qu'on essaie de faire. On ne pourra pas lutter contre une ingérence permanente nutritionnelle. On l'entend à la radio, on l'entend à la télé, dans les médias papier, partout. On entend encore des valeurs qui sont distribuées, distillées par de vieux mécanismes des années 70 qui répètent encore tous les bienfaits du lait, tous les bienfaits du sucre et tous les bienfaits des céréales. Alors non, ce ne sont pas des produits à bannir. Il y a des gens qui disent, mais alors, il faut arrêter de les manger. C'est pas du tout le discours, c'est de dire, il faut arrêter l'ingérence 3 fois par jour, parce qu'on aurait des carences en ceci, des trucs en cela. Il faut arrêter ces discours-là, et revenir, justement, vous parliez au début du régime crétois, il faut revenir à des valeurs beaucoup plus simples.
Les produits laitiers, par exemple, on en consomme encore beaucoup trop?
Alors, on en consomme encore beaucoup trop, en tout cas dans nos pays. On en consomme beaucoup trop dans nos pays et on commence à en consommer beaucoup trop dans certains pays qui n'en consommaient pas. C'est des endroits où se sont installées des marques industrielles comme les pays asiatiques, surtout les pays asiatiques. Le problème des produits laitiers, c'est que les produits laitiers sont surestimés et surexposés par rapport aux valeurs du calcium. Déjà, premièrement, le calcium, on ne connaît pas le taux. Nous parlons de 1000, les Anglais parlent de 800, les Chinois parlent de 200 à 300 mg par jour. On ne connaît pas les taux réels du calcium. Déjà, c'est le premier fantasme. Et surtout le deuxième, c'est qu'il existe tant d'autres produits qui contiennent du calcium. Les amandes, l'eau, les choux, tout ce qui est crucifère, en fait. J'aime à le dire, c'est la mode des soupes miso japonaises, dans lesquelles on met une algue dedans, qui s'appelle l'algue wakame, qui contient 13 fois plus de calcium qu'un verre de lait. On n'en entend jamais parler. Jamais. Et c'est ça qui me chagrine. C'est que chaque fois que vous allez chez un médecin ou dans un laboratoire, que vous récupérez votre taux de calcium, point d'interrogation, regardez ce que l'on vous propose, ce ne sont que des produits laitiers. Et je ne trouve pas ça très objectif.
Stéphane, on va écouter la première histoire de l'émission. Elle nous a raconté par Serge.
Tout à fait. Oh, c'est une histoire vraie.
Une histoire vraie.
Oui. C'est une histoire vraie. Je ne suis pas très fier.
J'aime bien parce cette phrase d'attaque. Allez, Serge,
on une histoire donc vraie ou pas ? On vous écoute.
Il y a prescription, mais j'ai failli assassiner de mes propres mains, étrangler un de mes amis, mon copain José. Ça devait être en 90. Je sais pas ce qui m'avait pris en allant boire l'apéro. On s'est arrêté au bar tabac, acheter des cigarettes. Et j'avais aussi acheté, à l'époque, je fumais. J'avais aussi acheté un ticket de qui se gratte. C'était un jeu où il y avait trois télés. Si tu grattais tu passais à la télé, tu pouvais gagner un million d'euros. On arrive au bistrot.
C'était millionnaire ou quelque chose comme ça, non ?
Je sais plus le nom, le jeu des télés, enfin, je sais pas. Et c'est mon copain José, il m'a dit je peux gratter. J'ai dit ok, tu sais faire. Il m'a dit ouais. Il commence à gratter avec sa pièce. Je vous fais le bruit. Une télé, il regratte.
C'est de la radio.
Deux télés, il regratte. Trois télés, moi j'hallucine. Et ce con, il fait... Il gratte tout le ticket en disant « Mais il y a des télés partout !» Et une seconde après, le ticket n'était plus valable parce qu'il avait gratté à côté. Et
il fallait en gratter que trois, c'est ça.
Mais oui, mais il avait gratté d'entrée les trois télés et après il s'est mis à gratter tout autour ce couilloune. En provençal, c'est mieux les jurons, vous avez
vu. Ouais, c'est plus joli que d'autres mots ici.
Voilà, ça vous fait rire, mais moi, je n'ai pas rigolé du tout. J'ai encore la colère 25 ans après.
Bah oui, j'imagine. Si c'est vrai, oui, mais comme c'est pas vrai.
Mais qu'est-ce que vous en savez, monsieur
Vaudreuil ? Bon, on va demander aux auditeurs de France Bleu Provence. Les 04 42 38 08 08. C'est José, c'est ça ?
Mon ami José, il peut en témoigner si on l'appelle.
On verra tout à l'heure.
S'il
nous écoute, il peut nous appeler. Ouais. 04 42 38 08 08. On peut appeler des amis dans cette émission aussi.
Comme avec Jean-Pierre Foucault.
Voilà. Chico et ses Gypsy, c'est ce qu'on vous offre ce midi. Dîner spectacle avec lui et ses musiciens ce samedi à partir de 19h, donc au patio de Camargue à Arles. 04 42 38 08. 08. Jean-Michel, oui. Donc c'était la première traduction de Payol.
De la série, voilà.
De la série. Il y en aura d'autres, j'imagine.
Ah, mais je l'espère, j'y travaille déjà.
Peut-être aussi des ventes.
Exactement. C'est pour ça que je me permets de signaler que je serai patronne de mon ami Serge Scotto au Carré des Écrivains. Et je ferai des poutons en provençal, je ferai des dédicaces, tout écrites en provençal pour justement accompagner brillamment cette. Très belle édition provençale de la gloire de mon père, la glorie des Montpaillerets.
Au Carré des Écrivains, donc voilà. Ce samedi entre 14h et 18h, donc au Centre Bourse à Marseille. Et vous allez faire des petits dessins comme d'habitude ?
Voilà, oui. Moi, j'ai dessiné des Garlabins, des Pinèdes. la BD, ce qui est sympa, c'est d'avoir la dédicace, quoi. Et puis Jean-Michel me disait avant l'émission, et ça, il me l'a appris, qu'il y avait 70 000 locuteurs du provençal.
C'est une histoire vraie.
Rien qu'à Marseille, oui, c'est une histoire vraie. Et mais on a 120 ou 130 000 sur la région. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens concernés. Et l'avantage de la BD, c'est que vous n'êtes même pas obligé de le parler. Le provençal, parce qu'avec l'image, de toute façon, déjà l'histoire de la gloire de mon père, on la connaît. Et en plus, avec l'image, on comprend. Donc vous pouvez l'apprendre dans la BD, finalement. Mm-hmm.
Le temps des amours, c'est pas le plus connu des souvenirs d'enfance de Pagnol.
Alors non, il conclut la quadrilogie des souvenirs d'enfance. Il était d'ailleurs publié, il avait d'ailleurs été publié à titre posthume. Ce n'est pas le plus connu, mais ce n'est pas le moins amusant. C'est vraiment. Alors Pagnol découvre. L'amour. Il se fait particulièrement martyriser par la jeune et cruelle Isabelle qui lui fait avaler des sauterelles. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de hashtag pour se plaindre, alors il ne dit rien, il avale. Mais je crois que de ce jour-là, il a quand même compris qu'il ne fallait pas tout avaler non plus. Et des couleuvres, en tout cas. Et il y a aussi l'épisode très marrant, justement, dans Le Temps des Amours, de la couleuvre géante de Provence. A-t-elle vraiment existé Est-ce que c'est un mythe, cet animal ? En tout cas, Pagnol en a fait une légende. Mm-hmm. Alors, on voit le jeune Marcel et son ami Lily partir à la chasse de la couleuvre géante. Et plein d'épisodes très amusants. Le Temps des Amours, c'est vraiment très marrant. Mm-hmm.
Et ça vient de sortir, c'est sorti hier.
Hier, le Temps des Amours, tout à fait. On l'aura au Carré des Écrivains, bien sûr.
Évidemment.
Avec Morgan Tanco, le dessin qui a dessiné la quadrilogie.
Allez, on accueille Olivier qui est à Pourrières. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Provence. Ça va bien, Olivier ?
Très bien, impeccable.
Ouais. Vous avez écouté attentivement, j'imagine, l'histoire que Serge nous a racontée.
Oui.
Bon, Moi, j'espère que je ne vous ai pas trop influencé. Moi, je n'y crois pas, cette histoire, mais elle est peut-être vraie, hein, ceci dit, Olivier.
Ben, moi, en fait, j'y crois pas parce que vraiment, il me fait de la peine, un peu cher.
C'est, oui, c'est vrai.
Les trois télés. Ben, oui. En plus, il ne connaît pas le nom du jeu, alors bon, c'est un peu bizarre.
Ouais, voilà. Ouais. Mais attendez, c'était à 25 ans. Qui se souvient du nom de ce jeu? Après, il fallait passer non, à la télé, on tournait
ça,
la roue.
Un truc comme ça, on s'en souvient.
Que 25 ans.
J'ai acheté une fois ce ticket de ce jeu.
Bon, Olivier, donc vous pensez que c'est faux, hein, c'est ça?
C'est faux, oui.
Bon. Eh bien, écoutez, Olivier, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que c'est vrai, mais ce n'est pas à moi que ça est arrivé, donc c'est faux, effectivement. Mais c'est arrivé à une amie à moi. C'est son grand-père italien qui ne connaissait pas du tout la règle du jeu, qui a gratté le ticket.
Et sinon, elle aurait gagné.
Oui, oui, et qui a eu les trois télés, et qui a gratté sous ses yeux, et qui a rendu tout le ticket invalide.
Ah, c'est rude, oui.
Donc voilà, c'est une histoire qui est arrivée pour de vrai, mais heureusement pas à moi, parce que je l'aurais étranglé pour de bon.
José. Ça aurait été la fin d'une belle amitié.
Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu un ami qui s'appelait José. Bon, ça n'intéresse personne. Bravo, Olivier.
Bon, Olivier, félicitations, vous êtes sélectionné pour le tirage qui aura lieu tout à l'heure, en fin d'émission. Bravo à vous.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. À très vite sur France Bleu Provence. Allez, on est ensemble jusqu'à 13h avec Serge Scotto, avec Jean-Michel Turc et avec Stéphane Guilbeault. Je ne l'ai pas précisé, mais il a un site Stéphane, stéphaneguilbeault.com. Il y a un blog, il y a plein de choses. Enfin voilà, si vous êtes passionné par le sujet, n'hésitez pas à y aller. Allez, tout de suite, un point sur les conditions de circulation. Toujours compliqué entre Fuveau et La Barque sur la départementale parce qu'il y a un poids lourd de coucher sur la chaussée. Des difficultés également pour accéder au centre-ville de Toulon depuis la 50, puisque le boulevard Foch est coupé à la circulation jusqu'au tribunal à cause d'une fuite de gaz. Sinon, ailleurs dans la région, globalement, ça roule bien.
On fait la route ensemble avec département13.fr, le site du département des Bouches-du-Rhône.
Gaga sur France Bleu Provence.
Tout à l'heure dans France Bleu Provence et vous.
À partir de 15h, une heure de musique et de détente. Marc Tuesca dans Pop Story nous racontera l'histoire des plus grands tubes avec une chanson de Rod Stewart. Sans oublier le jeu du coffre, vos infos routes et un zoom sur une journée sans ton à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, c'est ce week-end. Voilà le programme entre 15h et 16h.
France Bleu présente la compilation Talents France Bleu 2018, volume 2. Vos artistes préférés réunis sur un triple CD. Avec trois cafés gourmands, Patrick Bruel, Jennifer, Jane, Zazie, Christine and the Queen, Kenji Girac, Pascal Obispo et bien d'autres. La compilation Talents France Bleu 2018, le volume 2, disponible en triple CD. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
À Marseille, Saint-Henri,
Saint-Antoine,
Saint-Louis et France Bleu Provence.
On est bien ensemble.
France Bleu Provence midi.
Les Tchatchers.
Thibaut Gaudry.
Avec autour de la table ce midi, Stéphane Guilbeault, consultant en changement de comportement alimentaire. Stop aux mensonges dans l'assiette. C'est son dernier livre. Il va le dédicacer ce samedi à 11h à la librairie de Provence. À Aix, Jean-Michel Turc et Serge Scotto seront ce samedi au Carré des Écrivains, au Centre Bourse, entre 14h et 16h, pour dédicacer, entre autres, La gloire de mon père en provençal. On dit comment? Vous pouvez nous rappeler, Jean-Michel?
La gloire de mon père.
Et Le temps des amours, ça, c'est le nouveau tome publié par Serge Scotto, c'est sorti hier. Et donc il le dédicacera ce samedi au Centre Bourse. Et Serge sera aussi à Toulon à la fête du livre ce dimanche, toute la journée là par contre.
Toute la journée.
À faire des petits dessins, à dessiner des garlabans pour les lecteurs qui viendront vous voir donc à Toulon à la fête du livre. Encore deux histoires qu'on va écouter aussi qui seront racontées tout à l'heure par Jean-Michel et par Stéphane pour vous permettre d'aller voir Chico et ses Gypsy chez lui au Patio de Camargue à Arles ce samedi, à l'occasion d'un dîner-concert. Stéphane, vous venez de publier Stop aux mensonges dans l'assiette. Vous aviez publié d'autres ouvrages, notamment Je ne mange pas de produits industriels et Non aux oranges carrées. C'est bien parce que dans les titres, tout est dit, quoi. On sait vers quoi on va,
c'est
quoi.
Vrai, c'est vrai.
On parlait pendant le disque de lobby. On en parle beaucoup depuis le début de l'émission, mais parce que c'est vrai que ce sont eux un peu qui font la loi.
Oui. Mais en fait, tout à l'heure, je parlais de rebelles. Mais j'incite les gens à aller vers une transition alimentaire. On ne peut pas accabler les lobbies. Ça paraît fou que ça sorte de ma bouche, mais c'est parce que ce week-end, j'étais donc à Strasbourg, à l'Institut européen de l'éthique alimentaire. J'ai participé à des tables rondes sur la malbouffe, et il y avait une table ronde autour des lobbies. Et une question leur a été posée, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez tant de pression, tant de pouvoir, etc. Et il a dit, en toute honnêteté et transparence, il dit, on a tellement d'argent, mes clients ont tellement d'argent, qu'on a déjà un poids financier, et on a souvent 4 ans d'avance sur le gouvernement, puisque le gouvernement est tellement en train d'essayer d'éteindre des incendies à droite à gauche, qu'il ne pense même pas à ce que nous, on travaille déjà, on prépare. Donc, quand vous vous retrouvez accablé avec un pouvoir, une pression publique, en fait, qui veut une réponse immédiate, ben, les lobbies n'ont plus qu'à présenter le dossier qu'ils ont préparé depuis 4 ans.
Et c'est ça le truc, en fait. C'est que souvent,
ce qu'on voit
sortir dans la presse, ces études, ou ces pseudo-études scientifiques, sont souvent orientées, financées par des gros groupes, par exemple.
Il y a plusieurs cas qui sont arrivés avec les statines. Le professeur Delorgeril s'est souvent battu avec ce fameux rapport qui avait été remis, qui avait été biaisé, etc. Aujourd'hui, ça fait partie d'histoires passées, mais qui font partie, en fait, de toute la manœuvre lobbyistique que l'on retrouve. Et ce qui est plus compliqué, c'est que quand c'est distillé, et en marketing on appelle ça, c'est un mot que je répète souvent, mais c'est parce qu'il me plaît, c'est ce qu'on appelle le truisme. Le truisme en marketing, c'est une vérité non vérifiable, non vérifiée, qui à force de répétition finit par devenir vraie. Et c'est ça en fait qui a scéné dans la tête des gens sans cesse. Et au bout d'un moment, ce nutritionnisme ambiant fait que les gens savent plus ce qui est vrai et faux, et finissent par se dire, ils le répètent tellement que ça doit être forcément vrai. Et c'est ce mécanisme-là qui demande énormément d'argent, qui permet en fait d'aboutir. Donc, le côté rebelle, c'est de dire cette transition alimentaire, elle doit être engagée pour aller vers un processus et un système qui ne profite pas des gens qui veulent le pouvoir. En l'occurrence, je ne peux pas chercher le pouvoir avec le statut et la position que j'ai. Par rapport à ça, c'est une notion de liberté que j'essaie de donner aux gens. Mais attention, personne n'est accablé parce qu'il y a tout un système. Il n'y a pas de complot. justement, on dit, oui, c'est un système complot. Pas du tout. C'est tout un système qui s'est mis en place depuis les années 70, qu'il est extrêmement difficile de casser parce que la nourriture est un aliment plaisir et on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de sortir
on a juste,
de ça.
Oui, on a
sauf
envie
que,
de se
comme
faire
disait
plaisir,
Serge Scotto au début, les gens commencent à être malades, à vieillir ou à avoir des problèmes très très jeunes avec l'alimentation. Et là, le système, le dogme est remis en question. Et c'est ce qu'on vit.
Il n'y a même pas besoin de complot là où les intérêts convergent.
Oui, tout à fait. Oui, bah oui, oui.
Mais ça revient au même.
Tout à fait.
On va écouter tout de suite la deuxième histoire de l'émission, Jean-Michel.
Oh pauvre. Alors c'est pas une galette. Ça me remue même les tripes d'y penser.
Oh mon
Dieu. J'avais vécu une grande
injustice. Presque les larmes aussi.
Injustice. Alors pour le petit symbole, ça s'est passé au Collège des Chartreux, l'actuel Collège des Chartreux. J'ai eu la chance de faire mes études symboliquement. C'est là où Marcel Pagnol avait fait ses études. Ensuite le lycée Thiers, mais la comparaison s'arrête là. Et la plus grande école communale de Marseille, comme on rappelle, dans la gloire de mon père. Donc c'était en cinquième, en cours de français, et j'avais affaire, on travaillait sur, on ne peut pas me faire mieux non plus, la gloire de mon père, et on avait une rédaction.
C'est cousu de fil blanc déjà votre histoire.
Et pourtant c'est vrai. Mais bon, comme dit Stéphane, pour te le répéter, peut-être qu'on y croira. Donc j'avais une rédaction à faire comme tous mes collègues, et j'avais utilisé, le malheur d'utiliser, un des verbes qui était utilisé par Marcel Pagnol, parpelléger. Parpelléger, pour ceux qui ne le savent pas, bon, ça vient du provençal, parpelle, c'est bouger, cligner des paupières, mais c'était intégré au texte, même pas en italique, rien. Donc moi, naïvement, je l'ai réutilisé. Et la prof, Madame Blanc, m'avait enlevé, j'aurais pas dû citer son nom, mais pas son âme, ou gros bisous si elle m'écoute, encore, m'avait enlevé des points, et j'avais vraiment vécu ça comme une injustice. Elle m'a dit, Jean-Michel, bon, elle venait du Nord.
Mais Jean-Michel, comme ça oui, Jean-Michel.
C'était un peu rêche.
Jean-Michel, ce n'est pas du français.
J'ai dit, madame, c'est dans le livre de Pagnol.
Non.
Donc voilà, ça c'était arrêté
quand
là.
Même, elle était...
Elle faisait peur.
C'est sévère. Vous savez que vous avez des vrais dons d'imitation. Alors, j'ai pas connu cette dame, mais...
Oui,
mais...
c'est gentil. Bon, c'est vrai qu'on a envie de la connaître, d'ailleurs. Mais... Je refais Jean-Claude Godin, mais on va peut-être éviter aujourd'hui.
On a eu Jean-Claude Godin tout à l'heure avant l'émission, c'était très bien. Non, vous le maîtrisez bien, votre
Godin. Tout à l'heure, tu m'as fait Dark Vador en provençal. Redis-nous, je suis ton père en provençal pour les auditeurs.
Il est aussi au tombaille. On peut faire encore mieux. Puisqu'il fait des bruitages, Serge, en faisant le grattage. Moi, je préfère... C'est au tombaille.
Eh bien, ça, j'y crois. C'est vrai. C'est mon père.
Je t'en ai remagé, Chico, à midi.
Allez, 04 42 38 08 08. Est-ce que l'histoire que nous a racontée Jean-Michel est vraie ou pas? Elle me semble un peu plus crédible que celle de Serge.
Oh, je vous en prie.
Vous pouvez le dire.
Allez, 04 42 38 08 08. On vous invite ce midi à aller voir Chico et ses gypsies à l'occasion d'un dîner-spectacle chez lui au patio de Camargue. C'est ce samedi à partir de 19h et c'est à Arles, et évidemment. Serge,
oui,
des Chintocs en Provence.
Exactement.
Votre prochain roman, ça fait un petit moment que vous n'aviez pas publié de roman,
oui,
parce que vous êtes tout entier investi
dans
l'adaptation de Pagnol en BD.
Exact.
Des Chintocs en Provence, donc ça se passe dans les années 70, dans un petit village.
Voilà.
Et d'où les gens sont partis, en fait.
On est en plein exode rural, bien avant que les Anglais et les Hollandais rachètent les maisons à des prix qui les rendent aujourd'hui inabordables aux autochtones. À l'époque, les villages se vident, hein, et le maire a l'idée de relancer la lavanderie. Pour ça, de faire venir la main-d'œuvre de Chintoc. En l'occurrence, des Cambodgiens qui ont fui le régime de Pol Pot et qui vont être plus ou moins bien accueillis par les gens du village. Voilà, c'est une fable très provençale. J'ai presque envie de dire un conte humaniste, n'est-ce pas ? Qui se passe en Haute-Provence, dans un village fictif, mais on se doute que c'est du côté de Valensole, puisqu'il y a de la lavande.
On accueille Stéphane, qui est à Montfort-sur-Argens.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane. Ça va bien,
bonjour.
Stéphane ?
Ça va.
Bon, Stéphane, que pensez-vous de l'histoire que nous a racontée Jean-Michel avec cette prof très, très, très stricte sur l'utilisation du provençal ?
Si c'est une prof qui est du Nord, je pense que c'est vrai, quoi.
Elle était de
au-dessus d'Aix.
Au-dessus d'Aix.
Elle était de Célonie. Bon.
Bravo.
Vous pensez que c'est vrai, donc, Stéphane ?
Oh,
et
oui.
Donc, Jean-Michel,
oui.
C'est vrai ?
Bravo, mon cher Stéphane. Je voudrais faire une bise.
Non, effectivement, c'était vrai. Puis bon, voilà, j'avais pas bien compris, puisque à l'époque, je ne parlais pas aussi bien provençal, donc je comprenais pas du tout sa remarque. Voilà.
Et oui, parce que vous, ça vous semblait normal, légitime de l'utiliser.
Mais il y a plein de mots qu'on emploie quand on est Marseillais en croyant qu'ils sont français. Mmh. On parlait de l'écriture de mes romans. Quand j'ai commencé, mon premier roman, je l'ai envoyé à Paris et on m'a répondu qu'il y avait plein de mots...
Incompréhensibles,
pas français. Donc moi, j'étais convaincu que c'était français parce que je les employais toujours comme un chalet. À vélo, ça se dit ici, mais il n'y a même pas de mot français équivalent, ce qui prouve qu'on est plus intelligent que les Parisiens.
On a du vocabulaire en plus.
Oui, parce qu'on invente des mots.
On a du mal à le traduire comme galéjade, et Marcel Pagnol a beaucoup contribué justement à populariser ces mots du provençal francisé.
Je me rappelle d'une rédaction, moi, c'était embranché. Elle m'a dit, ça n'existe pas embranché, c'est trébuché.
Voilà. Ah, mais ouais, moi c'est pareil, embranché, tout ça. Mais bon, jamais encore aujourd'hui, j'apprends par les retours des correcteurs que ce sont des mots d'ici, comme le malon sur le sol.
Ah oui, bien sûr.
Le quairon.
La strasse, enfin tout ce dont parle brillamment le matin,
Médéric Gasquet-Cyrus sur cette journée. Stéphane, vous êtes sélectionné pour le tirage qui aura lieu dans quelques instants sur France Bleu Provence. Belle journée.
Merci vous aussi.
À très vite. On va écouter la dernière histoire tout de suite. Et c'est un autre Stéphane qui va nous la raconter. Stéphane Guilbeau qui est avec nous. Dans les Tchatcheurs, que vous est-il arrivé ou pas?
Alors ça s'est passé il y a une quinzaine d'années. J'allais partir avec mon associé sur Paris. Donc on partait d'Aix. Et on prend la voiture à 4h, 5h30 du matin. Et cette voiture, je ne la prenais jamais la nuit. Donc il a fallu que j'allume les phares. Et en allumant les phares, je ne m'étais pas rendu compte qu'une durite avait une fuite. Donc la durite ayant une fuite, l'essence coulait sur le moteur, et avec les phares et la chaleur, elle s'est mise à prendre feu. Mais on avait un train à prendre, mais moi je suis un petit peu maniaque, la voiture, en la reculant, elle avait pris feu, elle était au milieu de la route, en feu. Je monte dans la voiture et je la gare. Et mon associé me regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Je laisse pas une voiture au milieu. Et j'ai garé la bagnole, il m'a regardé, il a halluciné. Et donc, du coup, après on est parti avec une deuxième voiture, et on a raté le train quand même. Voilà. Bon, j'ai déplacé une voiture en feu.
Bon. C'est le moment de nous dire ce que vous pensez du barbecue. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? Parce qu'il y a débat.
Alors, préparez votre réponse, Stéphane.
Oui, je prépare.
Alors, est-ce que l'histoire que vient de nous raconter Stéphane est vraie ou pas? 04 42 38 08 08. Dernière occasion de gagner ce midi vos invitations chez Chico et c'est Gypsy. Allez, tout de suite, on écoute Maroon 5, leur dernier single. Girls Like You, on se retrouve juste après avec Stéphane, avec Jean-Michel et avec Serge. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right. Sundown when I come through, I need a girl like you.
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Sur France Bleu Provence avec Girls Like You. France
Bleu. Bonjour, c'est Laurent Menel. Quand la Provence aime rire, on peut faire confiance à nos humoristes. Enfin, presque, avec Yves Pujol, le Toulonnais.
C'est terrible, on rigole pour pas en pleurer. Hein.
Le coach vocal Philippe Roche.
Et bisous à tous les auditeurs. Comptez sur moi, je serai là dès la première heure.
Ziz, la Marseillaise totalement déjantée.
J'ai toujours été une bombe, moi. Alors j'attire, hein.
Éric Collado, toujours aussi chaud.
Je fais du co-trottinettage.
Et l'expert en tout, Bruno Ginoux.
Parce que pour Collado, c'est pas pareil. Hein. Oh, tu l'appelles la veille pour le prévenir de la chronique qu'il va faire. Je vais vous pourrir, moi.
Tous les jours à 8h20 et 18h45 sur France Bleu Provence.
France Bleu vous emmène en Loire-Atlantique avec France 5.
Température estivale.
La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, demain soir à La Baule.
Quelques courageux qui tentent la baignade.
Bonnes adresses déco, architecture balnéaire traditionnelle ou atypique, La Baule se dévoile avec des artistes, stylistes et artisans pleins de ressources et d'idées.
Nous sommes sur la Côte d'Amour, l'une des plus célèbres stations balnéaires de France.
La Maison France 5 à La Baule, demain soir sur France 5 à 20h50.
Bienvenue à La Baule.
Découvrez la bande-annonce et les infos sur francebleu.fr. France Bleu Provence,
la radio du bonheur.
C'est bon pour le moral.
Je vis à Marseille, je suis marseillaise, mais depuis les tout débuts de France Bleu, je suis sur votre radio.
France Bleu Provence, c'est vous qui êtes formidable.
Les tchatchers avec autour de la table ce midi, Jean-Michel Turc et Serge Scotto, oui, pour l'œuvre de Pagnol en BD. Vous pourrez les rencontrer ce samedi. Il y a aussi Dark Vador qui n'est pas loin. Vous pourrez les rencontrer au Centre Bourse à Marseille ce samedi entre 14h et 18h. Et puis il y a Jean-Claude Godin qui sera avec nous dans quelques instants aussi. Stéphane Guilbeault est là, consultant en changement de comportement alimentaire, Stop aux mensonges dans l'assiette, son dernier livre qu'il présentera et dédicacera ce samedi à 11h à la librairie de Provence à Aix sur le cours Mirabeau. Stéphane qui a eu il y a quelques années de cela des soucis de voiture. Est-ce vrai ou pas? Joël va nous répondre. Joël, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Ça va bien, Joël?
Oui, oui, très bien, merci.
Alors, dites-nous, c'est vrai ou pas l'histoire que nous a racontée Stéphane tout à l'heure?
C'est faux, parce que... Non, c'est trop dangereux.
Cette voiture en feu, Le péril de sa vie, il serait remonté dans sa voiture pour bien la garer.
Ou alors, il faut qu'il aille à mon père.
J'ai le psychiatre, comme on dit à Marseille.
Psychiatre.
Alors, Stéphane.
Vous imaginez la tête de mon associé à l'époque, puisque fan de Chichour, là, complètement fan.
Oh, pour de gauche.
C'est une histoire vraie. J'étais plus conditionné par le fait que la voiture reste au milieu 4 jours que de la remettre. Mmh. Et c'est malheureusement, c'est vrai.
Mais après, elle a totalement brûlé, j'imagine, en plus.
Non, parce qu'après, on a trouvé un instincteur. On a appelé les pompiers qui sont venus. On devait partir, on appelait les pompiers alors qu'on partait pendant ce temps-là à la gare Saint-Charles. Enfin, une histoire de dingue. Mais malheureusement, c'est vrai. Je dis malheureusement parce que j'en suis pas très fier.
Désolé, Joël. Belle journée. À très bientôt. À très bientôt.
J'ai noté l'invitation à l'hôpital.
En quelques mots, donc, il y a un projet route culturelle entre Marseille et Naples là, qui est en train de voir le jour. C'est une idée de vous, Jean-Claude Godin?
Oui, alors, bien sûr, merci Thibault de me laisser la parole. Nous avons, depuis l'Antiquité, des liens très forts, culturels, entre la ville de Naples et la ville de Marseille. Je vous cite les vestiges grecs, pour commencer, et puis la gastronomie, et puis le chant, et puis tous les senteurs, les Santibelli d'un côté, le Napolitain de l'autre, autre, le Provençal chez nous, autant vous dire ma fierté. Encore pour combien de temps, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ma fierté d'être maire de Marseille et de saluer cette immigration qui a fait la gloire aussi de mon père et puis de nos aïeux, je veux dire, ce partage de culture et qui fait briller le Provençal. Merci Thibault de m'avoir laissé la parole.
Bravo, monsieur le maire, bravo. Jean-Michel Turc, bientôt sur scène. Dans toute la région en tournée. Avec ses personnages de légende, Jean-Claude Godin, Dark Vador, etc. Non, c'est très, très, très
bien. Il sera au carré des écrivains. Je pourrais faire aussi sur demande. Un livre acheté.
Tout ce que vous avez dit, Jean-Michel, même si c'était à travers la voix de Jean-Claude Godin, ceci dit, c'est vrai.
Ce que vous avez dit. Je réfléchis. Oui, imitateur, je vois un peu.
Ce projet de route culturelle entre Marseille et Naples, vous êtes allé en repérage, là.
Oui, on est parti 4 jours avec des amis en petite délégation. Et c'est vrai que c'est le peuple napolitain est absolument merveilleux. Et c'était pas de blague aussi de rappeler que les heures de gloire de langue provençale, au moment où elle commence un peu à chanceler, tout le monde la parle, 1870-1930, 25% de la population marseillaise sont des Italiens, soit des Piémontais, soit des Napolitains, et ils ont parlé provençal avant de parler français, parce que c'était beaucoup plus simple.
Serge, Napolitain ?
C'est l'histoire de ma famille que tu racontes là, mon cher Michel.
Ça me fait plaisir.
Puisque nous sommes originaires de Procida, Ischia, Capri et Procida, les trois petites îles en face de Naples. On a effectivement débarqué à la fin du 19e siècle pour travailler sur le chantier naval du Faro. Et voilà. Mm-hmm. Et on est là aujourd'hui à la radio.
Ouais, c'est un plaisir. Bravo.
Il y a des tchatchers.
Tout ça pour ça.
Ça valait bien la peine. J'aurais pu raconter une histoire vraie de mon arrière-grand-père qui a été écrasé par une charrette sur la canne de bière.
Le coq est bien.
Non, ils ont une belle boustifa. Il n'y a pas que la pizza à Naples.
C'est vrai.
Non, ça mange très bien.
Bon, on me dit... C'est Olivier de Pourrières qui gagne ses invitations pour aller
voir Olivier.
Bravo Olivier. Chico et les Gypsies ce samedi, donc au patio de Camargue. À Arles, on avait encore plein de choses à se dire, mais c'est déjà presque fini. On n'a pas eu le temps de parler de votre association, ce sera pour la prochaine fois, Jean-Michel.
J'espère bien.
Bah oui, que vous présidez, qui
250.
S'appelle
Le grillé de plein de cuc, loup grillé, le grillon, un insecte porte-bonheur, en plus de la coccinelle, on fait pas mieux depuis 1947, pardon, il y en a 250 dans l'association, et j'ai l'honneur encore d'en être le président.
Et on aurait pu parler aussi de Habitat Humanisme que vous avez soutenu ces jours-ci aussi avec vous Serge, mais bon le temps est trop court. On voulait parler
les gens peuvent aller sur heure-solidaire.org pour découvrir l'action d'Habitat et Humanisme
et dont vous êtes l'un
des ambassadeurs quand on me le demande.
Et puis les cagoles dans le flux glacial.
Les cagoles bientôt. Dans le flux glacial, le retour des cagoles en décembre.
Dans le flux glacial, on suivra ça. Et puis Stéphane aussi, on aurait pu encore dire beaucoup de choses, mais c'est pas grave.
J'ai
donc vous êtes revenu
si
à Aix-en-Provence. Allez-y.
Je travaille depuis pas mal d'années pour France 5, les Docs du Dimanche, et le prochain sera le 2 décembre sur le petit déjeuner, la poudre de cacao.
D'accord. Et ça, quelle heure?
Le doc du dimanche, c'est 20h.
C'est 20h. D'accord. Et puis vous repasserez, puisque vous êtes redevenu Aixois, vous repasserez dans le coin. Merci à tous les trois d'être venus jusqu'ici.
Merci Thibault.
Sur France Bleu Provence.
Merci à Desias.
Stop aux mensonges dans l'assiette, aux éditions Erol, c'est signé Stéphane Guilbeault. Il se rend dédicace ce samedi à 11h à la librairie de Provence, à Aix, et sur le cours Mirabeau. Et puis toutes les infos sur son site internet, stéphaneguilbeault.com. Serge Scotto, Le Temps des Amours, depuis hier en librairie au Carré des Écrivains, ce samedi après-midi à la Fête du Livre à Toulon, ce dimanche toute la journée, puis bientôt un roman des Chintoc en Provence. Merci Serge et merci. Jean-Michel. Merci. Majoral du Félibrige, je le répète une dernière fois. Prof à Marseille.
Je peux revenir.
La gloire de mon père en Provençal, ça vient de sortir, c'est sorti hier également. Puis vous repassez quand vous voulez.
Oui, et sinon, carré d'écrivain, je fais des imitations, des poutous, des dédicaces en Provençal.
Voilà. Des dessins,
des petits croquis.
La danse du ventre en Provençal. Allez, bonne journée.